Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bon, on a mis un homme là-dessus, puis il l'a trouvé, Serge, l'effet Mathilda.
Oui. L'effet Mathilda, ça désigne le déni ou la minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques, comme on a dit, comme le petit article disait. Et c'est théorisé par l'historienne Margaret Rossier en 1993. Il rend hommage à la militante Mathilda Jocelyn Gage, qui avait dénoncé ce phénomène dès le 19e siècle.
Bon, on lui dit merci. Bon, merci, ouais. Mathilda. Merci, et merci Serge. Mathilda. On y va avec votre sujet du jour. C'est pas Mathilda, mais c'est Edmond Archambault.
Oui. Le vénérable établissement qui trônait majestueusement sur la partie est de la rue Sainte-Catherine depuis 93 ans, il faut compter 127 ans si on compte ses adresses précédentes. Rejoignait le panthéon des institutions qui ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire. Il n'y en a plus de Chris. Il n'y a plus Christmas.
Pardon?
Oui, il n'y en a plus de Chris. Il n'y a plus Christmas. Qu'ils se l'arrachent, leur Santa Claus, de chez Simpson puis de chez Eaton. Moi, je me contente de Dupuis Frère. Moi, je me contente d'Homère de Serre. Chantait Robert Charlebois.
Ah, c'est ça, je me disais, ça ressemble à une chanson, oui. Des paroles de chanson.
Oui, en 1969, il chantait ça.
Hein, dans quelle chanson?
Oui. Il aurait pu aussi ajouter Archambault à son énumération, parce qu'il fut lui aussi, comme Dupuis Frère, comme Homère de Serre, un témoignage de l'appropriation francophone d'une vie commerciale dominée jusque-là par les Montrealers. Je pense que le fait d'ériger cet édifice Art déco de 7 étages sur cette partie de la rue Sainte-Catherine en 1930 est une réponse canadienne-française à la présence des grands fabricants de pianos et des grands magasins de musique anglophone sur la partie ouest de la rue, explique Francis Lapointe, historien spécialisé dans le commerce musical et les instruments de musique. Des magasins comme celui d'Alexander Parker Willis sur Sainte-Catherine-Ouest et Drummond. Une réponse nationaliste à la mainmise anglophone sur la vie musicale. On pose la question, pourquoi pas? L'hypothèse est séduisante. Elle pourrait même expliquer l'attachement des francophones au magasin Archambault. Il faut toutefois être prudent sur cet aspect, mais il est indéniable qu'ils ont presque développé un sentiment d'appartenance envers lui. Sans doute parce qu'il leur permettait de participer à la vie musicale et culturelle d'ici, majoritairement anglophone depuis 1860. Pourtant, rien ne laissait présager que le comptoir de vente de partitions musicales et de petits instruments qu'Edmond Archambault louait dans le grand magasin de piano J.A.U. Hurteau sur Sainte-Catherine-Est, près de la rue Saint-Hubert, allait un jour devenir ce symbole montréalais. Né à Saint-Paul-l'Ermite en 1870, dans le coin de Repentigny, je vais aller voir hier, Edmond Archambault débarque à Montréal à 16 ans pour étudier le piano et l'orgue tout en enseignant la musique. Une période où le centre-ville et ses commerçants quittent le Vieux-Montréal pour la rue Sainte-Catherine. De sa demeure de la rue Berry, Archambault assiste à la transformation de sa ville d'adoption. La fin du 19e siècle, début 20e siècle, est une période très stimulante, explique l'historien. La ville est en plein boom économique. Les conditions de vie s'améliorent et les gens ont un peu plus d'argent.
On est en quelle année, là?
Fin 19e, début 20e, au tournant. Un petit surplus qu'ils peuvent investir dans des loisirs comme la musique. Comme la radio n'existe pas et que le disque n'est encore qu'à ses balbutiements, la seule façon d'en entendre, c'est d'en jouer. Toute la famille se réunissait autour du piano, puis des belles soirées. Il y a donc de belles possibilités pour les professeurs de musique et particulièrement pour ceux de piano, l'instrument de loin le plus populaire.
Il y avait un piano à peu près dans chaque maison.
Ah oui. C'est le centre du foyer. Un véritable « home builder », pour reprendre les mots d'Alexander Parker Willis, qui favorise l'épanouissement familial. Ça tombe bien, le jeune Edmond donne justement des cours de piano. Mais Archambault n'est pas le seul à l'enseigner, ils sont même plusieurs à le faire. La concurrence est très forte. Probablement, mais c'est une supposition que la vente de partitions lui a semblé une avenue plus intéressante pour mieux gagner sa vie que les leçons de piano. Donc il peut faire plus de sous en vendant les partitions. En 1896, il installe son comptoir de vente à l'arrière du magasin J.A. Hurteau. Une pratique courante à l'époque puisque les commerçants d'instruments de musique laissaient généralement la vente des partitions et de petits instruments à des indépendants qui leur louaient des espaces. La légende veut qu'il soit parti à New York avec 130 $ pour acheter un premier lot de partitions. 130 $ dans ses, au début, en 1896, ça, c'est des sous. Pas combien ça coûte aujourd'hui, mais sûrement des milliers de dollars. Un premier lot suivi d'un second, d'un troisième, etc. Et manifestement, Archambault a su choisir les bonnes partitions, puisque, même si ses débuts sont modestes, il réussit à s'imposer. Assez du moins pour continuer à s'associer à J.A. Hurtault quand ce dernier déménage sur Sainte-Catherine-Est et Saint-Denis en 1897. Dès 1900, il augmente son espace dans le magasin. Il y ajoute des pianos et des orgues et installe sa propre enseigne sur la vitrine. 3 ou 4 ans plus tard, il loue 2 étages supplémentaires. En 1915, Hurtault, dont les affaires sont florissantes, meurt. Alors Archambault rachète son fonds de commerce. Et en 1919, le nom Archambault prend toute la place et celui d'Hurtault n'est plus qu'un souvenir. C'est un fin entrepreneur qui profitait des occasions quand elles se présentaient. Il savait lire les besoins des musiciens et de ses clients. Archambault était le miroir des goûts, des modes, des traditions et des désirs des Montréalais. Il a toujours su saisir les particularités du marché, souligne l'historien qui a travaillé 8 ans dans le magasin. C'est peut-être pourquoi il s'intéresse rapidement à la musique religieuse en achetant en 1917 la maison d'édition La Schola Cantorum, spécialisée en musique sacrée. Une initiative heureuse dans une société aussi religieuse que la nôtre et qui lui permet de distribuer ses partitions partout en Amérique du Nord. C'est un bon investissement, une bonne affaire. S'il connaît les goûts de sa clientèle, il réagit aussi rapidement aux innovations technologiques, notamment le disque et la radio. S'il profite du piano boom de la fin du 19e siècle, il fait de même avec celui du disque et de la radio. D'autant plus qu'avec le disque, le potentiel de consommateur explose, évidemment. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer du piano, mais c'est tout le monde qui peut écouter de la musique avec un gramophone qu'on remontait là, à la main. Là.
Avez-vous connu ça?
Oui, à la campagne, mes grands-parents avaient ça.
C'était un bel instrument.
Ah oui, avec le gros cornet, là, puis les disques en vinyle qui pesaient.
Oui, un bel objet, je veux dire.
Oui, oui. Ouais. Si le succès d'Archambault tient beaucoup à son flair et à une période où tout était possible, il tient aussi à son personnel dédié, humain et qui conseillait avec justesse ses clients. Ça, c'est une marque de commerce d'Archambault. J'ai un ami musicien, puis il dit que c'était là, le bonheur d'aller là. T'sais. Toujours bien conseillé. Quand ils se présentaient chez Archambault, ils étaient accueillis par des spécialistes qui les accompagnaient dans leurs recherches. Ils revenaient donc les consulter régulièrement pour profiter de leurs connaissances et connaître leurs suggestions. On avait plus de chances de trouver un ami chez Archambault que chez Jean Coutu. Conclut en rigolant Francis Lapointe en citant le célèbre slogan du pharmacien.
Mais c'était vraiment des passionnés, des fins connaisseurs, chacun dans son genre musical.
Oui. Je reste encore un peu de temps?
Oui, un peu de temps.
OK. On dit, je suis un petit encadré, Monsieur Archambault, un homme généreux. Dès 1903, Edmond Archambault offre gracieusement au Conservatoire national de musique d'Alphonse Lavallée, Smith, des locaux sur 16 étages. Il en devient même le mécène, un rôle important à une époque où il n'existe pas encore de conservatoire public au Québec. Si la décision peut paraître surprenante, elle ne l'est pas tant que ça. Archambault avait très bien compris qu'en allant au conservatoire, les étudiants passeraient dans son magasin,
y
achèteraient leurs partitions et même leurs instruments.
C'est l'adresse incontournable.
Oui. Il y a même construit une salle de concert sur un des étages de son magasin, ce que plusieurs magasins de piano faisaient dans les années 1870-1880. Un geste qui, selon Francis Lapointe, est révélateur de sa méthode. Tout comme sa participation au conservatoire, sa commandite à une émission radiophonique de musique classique, la vente des pianos Archambault et qu'il fait fabriquer ici, ou encore les ententes d'exclusivité avec certains fabricants internationaux d'instruments. On voit chez lui le désir d'intégrer toutes sortes d'activités musicales au sein d'une même entité. C'est ça le modèle Archambault, explique-t-il avec enthousiasme. Une stratégie que son neveu, Rosaire Archambault, adoptera aussi, avec entre autres la création des disques Alouette et Select et d'un réseau de distribution, ma chère.
Est-ce que la marquise est toujours là? Parce qu'à un moment donné, on l'avait enlevée, ça avait créé un tollé,
on l'avait remise. Il me semble qu'elle est là.
Ah oui, j'espère.
Il me semble qu'elle est là, oui. Non, mais c'est beau, c'est vraiment
le...
Un témoin de...
Oui, de l'époque.
De l'époque, de nos magasins importants, incontournables.
Oui,
merci,
oui.
On salue Edmond Archambault, hein, un fin limier.
Mm-hmm.
Merci beaucoup, Serge.
Ouais, plaisir.
Et merci beaucoup, Isabelle. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Ah, Serge, vous partez en vacances?
Non, je ne serai pas là, oui.
C'est vrai.
Oui.
Pour quelques semaines.
Oui, jusqu'où je reviens le 23 mai.
profitez de tout.
Oui, absolument.
Oubliez-nous.
Oui.
Mais revenez quand même.
OK. Bye.